Europe 1. On de Latte raconte. Christophe On de Latte.
Je vous raconte aujourd'hui l'affaire Élodie Kulik avec sa dernière mise à jour, c'est-à-dire la condamnation fin novembre 2019 de Willy Bardon pour enlèvement et pour le viol d'Élodie. Ça n'est pas la fin de cette histoire puisqu'il a fait appel et qu'il y aura donc un deuxième procès. Ce qui veut dire qu'à ce jour, et j'y tiens parce que c'est la loi, Willy Bardon est considéré comme innocent. Pour le débrief tout à l'heure, je ferai appel à l'avocat du père Jackie Kulik, maître Didier Seban. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe On de Latte.
Une nuit d'hiver, dans la Somme, en janvier 2002. Élodie vient de passer la soirée avec un ami, à Saint-Quentin, la grande ville du coin. Et maintenant, elle rentre chez elle à Péronne, en voiture, dans sa Peugeot 106 grise. Elle connaît bien la route, hein, et le paysage, les champs de betteraves et de céréales à perte de vue. Sauf que là, il fait nuit, il fait froid, en dessous de zéro, il y a du brouillard, une nuit d'hiver, en Picardie. Elle emprunte la Nationale 29, puis, après une vingtaine de kilomètres, au rond-point de l'usine Bonduel, elle tourne à droite sur la départementale 44. Ce qui s'est passé après, eh bien, on ne sait pas. Qu'elle a fait une sortie de route toute seule? Est-ce qu'elle s'est endormie? Ou est-ce que quelqu'un lui a fait une queue de poisson volontairement? Est-ce qu'on l'a poussée hors de la route? On ne saura jamais. Toujours est-il qu'à minuit 20 pile, elle appelle le 18, les pompiers. L'opératrice du centre de secours d'Amiens qui a décroché n'est pas prête d'oublier son appel. Elle était effrayée. Elle était terrifiée, elle hurlait. J'ai clairement entendu des voix, des voix d'hommes, comme des hommes qui s'approchaient d'elle. Plusieurs hommes. Je lui ai demandé, où êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? J'ai pas eu de réponse, autre que ces hurlements. Et ensuite, ça a coupé. J'ai essayé de la rappeler, mais ça n'a pas répondu. À 1h10, un automobiliste aperçoit dans ses phares la voiture d'Élodie dans un champ, avec le clignotant qui marche toujours. Alors il s'arrête, il descend, il s'approche de la voiture. La portière passager est ouverte, le plafonnier est allumé, les clés sont sur le contact, la radio fonctionne encore. Mais il n'y a personne, juste un sac à main de femme. Entre-temps, les gendarmes ont reçu des appels d'autres automobilistes qui ont vu la voiture dans le champ. Alors ils arrivent. Ils ne sont pas au courant de l'appel aux pompiers. Et ce qui les surprend d'entrée, c'est que ça a l'air d'un accident. Mais c'est un drôle d'accident. C'est une ligne droite. Et où est le conducteur? Ou plutôt la conductrice, vu le sac à main? Bon, ça arrive. Si ça se trouve, elle avait bu. Après l'accident, elle a voulu éviter de souffler dans le ballon. Elle s'est enfuie. La plaque d'immatriculation leur donne un nom. Élodie Kulik. Les gendarmes l'appellent. Chez elle. Pas de réponse. Le lendemain matin, les gendarmes contactent la famille.
Vous non plus, vous n'avez aucune nouvelle.
Aucun contact, d'accord.
Et puis les gendarmes découvrent l'existence du coup de fil aux pompiers. Et à partir de là, bah, ça n'est plus un accident. C'est un meurtre. Ou au moins, un enlèvement. Et ils se disent que ça a peut-être à voir avec le métier d'Élodie Kulik. Elle dirige l'agence de la Banque de Picardie à Péronne. À 24 ans, elle est même la plus jeune directrice d'agence bancaire en France. Deux jours plus tard, le 12 janvier, à 6 km du lieu de l'accident, à la Tombille, une décharge agricole, un paysan tombe sur un corps de femme, allongé sur le dos, nu, les jambes pliées et relevées. Un corps brûlé sur tout un côté, mais pas assez pour qu'on ne la reconnaisse pas. C'est Élodie. Quand ils arrivent sur place, les gendarmes se disent « Il faut connaître,
pour venir planquer un corps ici. Il faut forcément être du coin. Gardez ça dans un coin de votre tête. Évidemment, les pompiers ont un enregistrement de l'appel téléphonique, passé par Elodie juste avant de mourir. Il dure 26 secondes. Les gendarmes l'écoutent une fois, 10 fois, 100 fois, avec ce sentiment d'assister en direct à l'agression d'Elodie. C'est rare, c'est très rare ça. On entend d'abord des cris, des hurlements, et à la fin des voix d'hommes qui s'approchent, mais on ne comprend pas ce qu'ils disent. Alors on confie la bande à des experts acousticiens. Ils utilisent un outil dit de nettoyage pour enlever les bruits parasites. C'est mieux. Mais malgré tout, personne n'est d'accord sur ce qu'il entend. Certains entendent un homme qui dirait quelque chose comme « il faut la finir » et puis le mot « batterie ». Mais d'autres n'entendent pas ça du tout. Et l'un des experts entend un homme utiliser le pronom « vous », ce qui pourrait laisser penser que les hommes seraient au moins 3. Écoute là. Il y en a un qui a l'accent picard, non? Tu trouves pas? Ça, c'est l'accent du coin, ça. Il a l'air plus âgé. L'enregistrement téléphonique n'est pas le seul élément de cette enquête qui débute. Pas très loin du corps, dans la décharge, on a retrouvé un préservatif usagé et son emballage. Et une serviette éponge blanche tachée de sang et de peinture. Et un mégot de cigarette. Tout ça est pain béni pour le laboratoire. Ah, ça y est, on a les résultats de l'autopsie. Elle a été violée 2 fois. Une fois sans préservatif et une fois avec. Et c'est le même sperme, hein, et donc la même personne qui l'a violée 2 fois. Et donc, on a l'ADN du violeur. Alors on le passe au fichier, bien sûr, mais en 2002, il n'y a pas grand-chose dans ce fichier. Ça ne donne rien. Au passage, on a aussi trouvé un ADN sur la serviette éponge, mais dégradé. Et au fichier, là encore, ça ne donne rien. À part ça, elle est morte étranglée, à main nue. Les traces sur le cou sont caractéristiques. Il n'y a pas de suie dans ses poumons, donc elle était déjà morte quand on a mis le feu à son corps. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie d'Elodie qui puisse mener à ces assassins ? Faute de mieux, c'est par là que les gendarmes commencent. Et là, ils découvrent une famille, les Kulik, une famille marquée par la tragédie. Chienne de vie, vraiment chienne de vie. Les parents d'Elodie, Jackie et Rosemary Kulik, ont d'abord eu 2 enfants, Karine et Laurent. Ils sont morts, tous les 2, dans un accident de voiture. Ils sont passés à travers le pare-brise. Et Elodie est née juste après, comme une revanche de la vie. Et la voilà à la morgue, à son tour. Est-ce qu'elle avait un amoureux, Elodie ? Ben non, rien d'installé, quelques aventures, mais rien de plus. De toute façon, les gens disent que c'était une femme très indépendante. Hein. Oh ben quand elle se faisait draguer, vous savez, elle les envoyait balader. Hein. Sans agressivité, hein. Mais fermement. Hein. Intéressant, ça. Est-ce qu'elle aurait pu éconduire un homme le jour de son assassinat ? Les gendarmes reconstituent son emploi du temps minute par minute. Le matin, elle est allée à son travail à pied. L'agence du crédit de Picardie de Péronne est tout près de chez elle. À midi, elle a déjeuné avec 2 collègues à côté de la banque, à la brasserie La Picardière. Oh ben je crois bien qu'il y a eu quelques commentaires un peu macho, sans doute, hein, de la table d'à côté, là, c'était des ouvriers du bâtiment. Mais à mon avis, rien de grave. Ensuite, elle a enchaîné les rendez-vous à l'agence jusqu'à 17h45, sans incident. Après, elle a pris sa voiture pour aller voir son ami Hervé à Saint-Quentin. Ils avaient rendez-vous dans un bar à tapas, le Latino. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Ben, que mes serveurs se sont gentiment disputés pour lui servir son Coca-Cola, quoi. Genre, laisse-moi la blonde, c'est pour moi. Bon, finalement, c'est moi qui m'en suis occupé. Ensuite, avec Hervé, ils sont allés manger dans un resto chinois. Et après, ben, on est allé chez moi, on a bu un thé, et elle est rentrée chez elle. À quelle heure ? Vers minuit. Vous acceptez un prélèvement de votre ADN, monsieur ?
Oui, bien sûr. Sans problème.
Négatif. Négatif aussi l'ADN de son dernier petit copain. Et de celui d'avant, un coiffeur avec lequel la rupture s'était mal passée. Les gendarmes s'intéressent ensuite à ses clients à la banque. Et les collègues d'Élodie leur racontent une histoire bien intéressante.
Eh ben, ce soir-là, figurez-vous que quand elle est partie à la fermeture de l'agence, quoi, y avait un gars qui l'attendait dehors. C'était un homme qu'elle avait connu au réveillon. Il voulait la revoir. Je pense qu'il en pinçait pour elle, quoi.
Eh, hey, c'est une piste, ça. Ce dragueur, les gendarmes le retrouvent.
Oh, c'est vrai que je l'ai un peu dragué, mais bon. Elle m'a éconduit, je n'ai pas insisté, hein.
Est-ce que vous acceptez qu'on pratique sur vous un test ADN, monsieur?
Oh, bah ouais, ouais. Pas de problème.
Négatif. Arrive l'été 2002. Et à ce moment-là, les gendarmes pensent avoir affaire à un tueur en série. Parce que le 9 juillet, on retrouve le corps d'une jeune femme de 19 ans, Patricia Leclerc, à moins de 30 kilomètres de l'endroit où est morte Élodie. Scénario très proche. Elle a été rouée de coups et violée. Et pour l'achever, son agresseur l'a écrasée avec une voiture. Un mois et demi plus tard, le 21 août, dans la même région, Christelle Dubuisson, 18 ans, est tuée à coups de couteau et écrasée par une camionnette. Et aucune piste. Est-ce que ça serait pas le ou les mêmes? Je vous ai parlé de la malédiction des Kulik. La maman d'Élodie, Rosemary, qui a perdu ses trois enfants, les deux premiers à travers le pare-brise, et Élodie, violée et étranglée, est au bout du rouleau. Elle est au fond du fond de la dépression. Alors elle avale un flacon de mort au rat et elle tombe dans le coma. Elle va y rester 9 ans. 9 ans. Et pendant 9 ans, son mari, Jackie, va lui rendre visite tous les jours en réanimation. Et tous les jours, à voix basse, il va lui raconter l'avancée de l'enquête. Elle qui sans doute n'entend pas, mais qui peut-être perçoit l'énergie de son mari qui se bat, qui ne lâche rien.
Nous sommes en ligne avec Jackie Kulik. Vous êtes le père d'Élodie, assassiné en janvier. Monsieur, c'était important pour vous d'être reçu par le ministre de l'Intérieur ?
Oui, pour moi, c'était très important d'être reçu par Nicolas Sarkozy. Je me doute bien qu'il suive l'actualité et que bon, ces trois horribles crimes dans un même périmètre ne pouvaient pas laisser les représentants de l'État indifférents. Je voulais, en contrepartie, je voulais avoir des garanties quant à l'enquête et quant au personnel qui était affecté autour de ces trois enquêtes.
Finalement, il n'y a pas de lien entre le meurtre d'Élodie et les affaires du mois de juillet et du mois d'août. On a retrouvé l'assassin des deux filles. Il s'appelle Jean-Paul Lecomte. Il sera jugé pour ces deux affaires et condamné. Et pour Élodie, il a un alibi en béton parce que quand elle est morte, il était en prison. Le soir et la nuit du meurtre d'Élodie, 14 000 téléphones portables ont accroché le relais téléphonique proche des lieux du drame. Ça fait du boulot, ça. Et ça ne donne rien. Les gendarmes finissent par installer des barrages la nuit autour de l'usine Bonduelle.
Bonsoir, monsieur. Gendarmerie nationale. Nous cherchons des témoignages sur la nuit du 10 janvier dernier. Vers 1h du matin, c'est le soir où Élodie Kulik a été tuée. Bah, moi, je suis pas passé par ici le 10. Mais quand j'ai vu dans le journal ce qui s'était passé, bah, la veille, bah, donc le 9, quoi, bah, j'ai vu une femme, ici, hein, dans le coin, se faire importuner par une voiture derrière. Vous devriez vous renseigner. Ça se fait beaucoup dans le coin.
Les gendarmes interpellent quelques fous du volant. Leur ADN ne correspond pas. Et les années s'écoulent pour Jackie Kulik. Des années de chagrin ininterrompu. Et tous les jours, il va voir Rosemary à l'hôpital pour lui raconter cette enquête qui n'avance pas. Et ça dure comme ça jusqu'en 2011. Et en 2011, Rosemary s'éteint. Pauvre femme. Elle s'éteint sans jamais avoir repris connaissance. Et donc elle n'est pas là, le 8 janvier 2012, quand on commémore les 10 ans de la disparition d'Élodie. Et elle n'est pas là non plus quand 8 jours après, le 16, le juge d'instruction appelle Jackie pour lui annoncer la nouvelle. La nouvelle qu'il attendait depuis tant d'années. On a identifié l'agresseur d'Élodie. C'est un miracle. Un miracle que l'on doit à un gendarme, un capitaine, qui rentre tout juste d'un stage à Quantico, l'académie du FBI aux États-Unis. Et là-bas, il a découvert une nouvelle technique pour exploiter l'ADN. Quand dans une enquête, on a une empreinte génétique qui ne donne rien quand on la passe au fichier. Ça s'appelle la technique des parentèles. C'est une idée de génie. Au lieu de passer au fichier un ADN complet, un ADN qu'on appelle nucléaire, qui est la carte d'identité de chaque individu, on soumet au fichier un ADN partiel qui, lui, caractérise tous les membres d'une même famille. Ça multiplie les chances. Si vous n'avez pas le tueur dans le fichier, vous avez peut-être son père ou sa mère ou son frère ou son grand-père. Les gendarmes de la Somme ont donc appliqué cette technique à l'affaire Élodie Kulik. Ils ont fait passer au fichier les ADN dont ils disposent en mode partiel. Et bingo! Ça a marché! Ils ont trouvé dans le fichier quelqu'un qui est de la même famille que le violeur-tueur d'Élodie. Cet homme est en prison pour une agression sexuelle sur un mineur. Mais il a un fils. Et ce fils s'appelle Grégory Viard. Mais le drame, c'est que ce Grégory Viard est mort. On ne peut pas le mettre en examen, il est au cimetière. Il est mort en 2003 dans un accident de la route. On a exhumé son corps au cimetière pour prélever son ADN. C'est bien lui, aucun doute. Le seul espoir maintenant, c'est d'identifier parmi ses amis des complices. Il faut fouiller dans la vie de ce Grégory Viard et identifier ses amis de l'époque. En janvier 2002, quand il a agressé Élodie, il avait 23 ans. Il était plombier chauffagiste dans un petit village proche de Péronne, Montessour-l'Isérolles. Il avait repris l'entreprise de son père quand l'autre était parti en prison. Les gendarmes font le tour du village.
Grégory Viard, oh attention, hein. C'est quelqu'un qui bossait bien, hein. Ouais, mais c'est un sacré loustique, hein. Oh, il était roubleur. Il était margouilleur.
Grégory Viard fréquentait assidûment deux bistrots du village.
Grégory? Oh, bah, quand il avait vu. Il était pas commode, hein. Allez voir son ex-femme. Elle vous en parlera.
Il la battait. Et à part ça, Grégory Viard faisait aussi partie d'un club de 4x4. Et il faisait aussi de la moto.
Oh, bah, c'était un super bon pilote, hein. C'est pour ça qu'on n'a pas compris son accident, hein, en 2003. Dans une ligne droite, en plein jour. Et il s'est encastré dans un camion de betteraves qui arrivait dans l'autre sens. Mort sur le coup. Un pilote comme lui, on n'a pas compris, hein.
Et les copains, ses copains. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Il avait une bande de copains, amateurs comme lui, de bagnoles et de motos. Avec eux, il faisait des virées entre potes, le plus souvent à Saint-Quentin. Renseignement pris dans la bande, c'était pas lui le leader.
Oh, Grégory, c'était pas un meneur du tout, hein. Il traînait avec des types plus âgés, des têtes brûlées.
Et d'ailleurs, en menant leur enquête, les gendarmes s'aperçoivent qu'il y a eu beaucoup de morts dans l'entourage de Grégory Viard et de sa bande. 3 morts la même année, 2005. Julien, 20 ans, carbonisé dans une voiture de location. Eric, retrouvé mort dans un canal, sans eau dans les poumons, mais avec des traces de coups et le foie éclaté. Et Nelson, 17 ans, retrouvé mort dans un canal lui aussi, sans eau dans les poumons et avec des traces de coups. Ça vous donne une idée de la bande. Tout, sauf des enfants de cœur. Les gendarmes font un travail titanesque. Ils identifient 61 personnes dans l'entourage de Grégory Viard. Ils les profilent, ils les placent pour certains sur écoute. Et le 16 janvier 2012, à 6h du matin, ils en interpellent 7.
7 hommes ont été interpellés et placés en garde à vue ce matin. Guillaume Bié, quel est le profil de ces 7 suspects?
Et il les place en garde à vue. Et pour provoquer un électrochoc, ils leur font écouter chacun à leur tour l'enregistrement de l'appel d'Élodie aux pompiers, 10 ans plus tôt. Alors, vous écoutez, hein? Et vous me dites si vous reconnaissez quelqu'un. Cette voix, là. La voix avec l'accent picard, là. Ça me dit quelque chose, ça. C'est Willy, ça, non? Willy? Bah, William Bardon, quoi. Sur les 7 interpellés, 5 disent c'est Willy. Et Willy fait partie, à ce moment-là, des gardés à vue. Et à lui aussi, on fait écouter la bande. J'y crois pas. On dirait que c'est moi, ça. Et puis, il comprend le piège. Non, ça ressemble. Mais c'est pour moi. Ce William Bardon, dit Willy, était le grand copain de Grégory Viard. C'est un costaud, au tempérament un peu vif, mais sans casier judiciaire. Il tient un bistrot, le Will Bar, dans un petit village. Et donc, à l'issue de sa garde à vue, Willy Bardon est déféré chez le juge. Et 10 ans après, il est mis en examen pour enlèvement, séquestration, viol en réunion et meurtre. Et il file en prison. Parmi les gens qui ont reconnu Willy Bardon à sa voix, il y en a un qui est très convaincant. Il s'appelle Romuald, c'est le neveu de Willy. En garde à vue, quand on lui a fait écouter la bande, il a dit
« Je pense que c'est Willy, ça. À 98% c'est Willy. »
Le juge décide de le confronter à Willy Bardon.
« J'ai écouté la bande 3 fois. Je t'ai reconnu, Willy. C'est toi. Mais Romu, enfin, c'est pas moi, je te le jure. C'est ta voix, pourtant. On dirait ma voix, d'accord, mais c'est pas moi. »
L'instruction ne trouvera aucune autre preuve contre Willy Bardon. Rien d'autre que le fait que lui-même, avant de faire marche arrière, et plusieurs de ses amis, l'ont reconnu dans l'enregistrement. C'est limite pour envoyer quelqu'un devant une cour d'assises. Et d'ailleurs, pendant quelque temps, le juge tergiverse. Et les avocats de Willy Bardon en profitent. Ils obtiennent en avril 2014 qu'il sorte de prison après 13 mois. D'abord avec un bracelet électronique. Et puis au bout de 2 ans, sans rien du tout, juste un contrôle judiciaire. Un temps, on pense avoir identifié un 3e homme. Et puis finalement, non. Mais le juge a décidé d'aller jusqu'au bout. William Bardon est renvoyé devant la cour d'assises. Et on verra bien si les jurés trouveront matière à le condamner. Le procès de William Bardon s'ouvre le jeudi 21 novembre 2019 devant la cour d'assises d'Amiens. Il comparaît libre. Il n'est pas dans le box donc, mais sur le banc, aux côtés de ses avocats. Le premier jour, comme souvent, on tente de cerner la personnalité de l'accusé. Son ex-compagne, Christelle, vient à la barre.
Bon, c'est vrai qu'au fil des années, il a sombré dans l'alcool, quoi. Mais c'était un bon père, hein. Il n'a jamais été méchant avec nous.
Et là, Maître Seban, l'un des avocats de la famille Kulik, intervient.
Vous voulez dire qu'il ne s'est jamais pris à vous, madame?
Bah si. Moi, je reconnais, quoi. J'étais soumise. Mais il m'insultait, oui, quand il avait bu.
Vous avez des exemples, peut-être, d'insultes, madame?
Bah, il m'appelait grosse vache, quoi. Il me disait, tu sais rien foutre, ton métier c'est de la merde, tu rapportes pas assez.
Le 5e jour, le président de la cour d'assises fait diffuser l'enregistrement. Il le fait diffuser 10 fois de suite, pas par haut-parleur, mais par casque, pour tenter de pallier la mauvaise qualité. 26 secondes d'horreur. Sur leur banc, les proches d'Élodie se bouchent les oreilles. Une fois de plus, personne n'entend la même chose. Et l'expert de la gendarmerie met tout le monde en garde.
C'est normal. Si vous l'écoutez plusieurs fois, vous n'entendrez pas la même chose, hein, à la 10e écoute ou à la 30e.
Et là, la défense de Willy Bardon fait citer comme témoin un universitaire.
Je dirais que les expertises réalisées à l'oreille ne relèvent d'aucun domaine de la science. Dans de telles conditions d'écoute, Pour moi, la fiabilité est proche de zéro.
Romuald, le neveu de Willy Bardon, qui en garde à vue a reconnu la voix de son oncle à 98%, est appelé à la barre. C'est le témoin clé. Une grande partie de l'accusation pèse sur sa certitude.
« Bah, j'ai dit que je reconnaissais sa voix. Mais en fait, avec le recul, on peut se tromper, hein. Ouais, en fait, je la reconnais pas, quoi. C'est les gendarmes, quoi. Ils m'ont orienté. Je n'ai pas l'impression, monsieur, que on vous ait forcé à reconnaître cette voix. Bah si. Les gendarmes, ils m'ont dit tellement de choses sur lui. »
Romuald a changé d'avis. Mais pas les autres. Au total, 6 témoins viennent confirmer à la barre qu'ils ont reconnu et qu'ils reconnaissent toujours la voix de Willy Bardon. Et lui, il avait reconnu sa propre voix en garde à vue.
« Mais à force qu'on vous dise c'est votre voix, bon, bah, ça m'a mis tellement la pression. Bah, j'ai fini par dire qu'il y avait un timbre qui me ressemblait, quoi, c'est tout. »
Corinne Herman, l'avocate du père Jacky Kulik, partie civile, se lève pour plaider.
Élodie est morte figée dans un viol. Un viol d'une telle sauvagerie que son sexe en était déchiré. Élodie, dont le corps a été abandonné près d'un tas de fumier. Souvenez-vous-en, elle avait le visage brûlé, noirci comme du charbon. Elle qui était si belle, elle n'avait plus de cheveux. Willy Bardon nous dit « J'aime les femmes ». Je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur Bardon. Vous aimez la jouissance qu'elle vous apporte, oui? Vous aimez le sexe jusqu'à l'ultime? Vous aimez les gangbangs? Vous aimez les prostituées? Oui. Vous dites aimer les femmes. Mais vous êtes une injure aux femmes.
L'avocate générale plaide ensuite.
Il n'est absolument pas rare de condamner sans preuve scientifique, mais uniquement sur la base de témoignages humains. Ce qui compte, c'est votre intime conviction. Je vous demande un minimum de 30 ans de réclusion criminelle pour monsieur Bardon, avec une période de sûreté des 2/3.
3 avocats se succèdent ensuite pour défendre Willy Bardon.
Ce dossier est un château de sable. Les expertises de reconnaissance vocale sont une fumisterie. L'ADN serait une preuve formelle de la culpabilité de Willy Bardon, mais il n'y a nulle part, l'ADN de Willy Bardon. Nulle part. Dans ce dossier, écoutez-moi bien. On a voulu trouver coûte que coûte un coupable vivant, quitte à en fabriquer un.
Willy Bardon a le dernier mot.
Monsieur Kulik, je suis innocent. Je vous le jure. J'y étais pas.
Les jurés ont suivi l'avocate générale. Willy Bardon est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Jacky Kulik se lève, il est en larmes. Et à ce moment-là, Willy Bardon sort quelque chose de sa poche droite. Et il l'avale. Et de l'autre main, il avale par-dessus une bouteille entière d'eau. On met un peu de temps à comprendre qu'il est en train de tenter de se suicider. On le sort, on l'amène d'urgence à l'hôpital, pronostic vital engagé. Il a avalé un pesticide. Mais il va s'en sortir juste à temps pour faire appel. Il y aura donc un autre procès. Et d'ici là, Willy Bardon doit être considéré comme innocent. C'est la loi.
Voilà donc pour cette mise à jour de l'affaire Élodie Kulik, qui appellera évidemment une suite lorsqu'interviendra ce procès, et une fin lorsque le verdict de la deuxième cour d'assises sera confirmé, probablement par la cour de cassation. Je suis avec l'un des avocats de Jacky Kulik, maître Didier Seban, au téléphone. Un mot, maître, sur cette tentative de suicide très spectaculaire en pleine salle d'audience. Il y a une telle mise en avant de l'ego de Willy Bardon dans ce geste. Que d'une certaine manière, est-ce que ça ne vous convainc pas encore plus de sa culpabilité ?
Oh, je me risquerais pas à ça. Le geste d'un homme qui se suicide ou qui tente d'attenter à ses jours, c'est un geste qui lui appartient. Je ne sais pas si on peut l'interpréter comme un signe de culpabilité ou d'innocence. C'est vraiment un geste qui lui appartient et je suis heureux qu'en tout cas aujourd'hui les nouvelles nous fassent dire que il a retrouvé son état de santé. On pouvait le souhaiter pour quiconque. Une mort dans ces circonstances, même si on est l'avocat de Jacky Kulik.
Jacky Kulik, lui, comment est-ce qu'il encaisse ce geste? Sur le moment, enfin quand il comprend, il met peut-être du temps à comprendre d'ailleurs.
Oui, il met du temps à comprendre, il l'a toujours dit, il est contre la peine de mort, il ne voulait la mort de personne, il voulait juste que les auteurs de ce crime abominable à l'égard de sa fille soient jugés. C'était la promesse qu'il avait faite à sa femme, Rosemary, c'est la promesse qu'il a fait à sa fille lorsqu'il l'a enterrée. Il s'est battu pendant 18 ans pour que ce procès puisse avoir lieu et qu'un jugement soit rendu, donc il y avait un sentiment d'accomplissement, au fond, pas un sentiment de vengeance. C'est ce qu'il voulait, il l'a toujours dit, c'est la justice, et il a le sentiment que la justice a été rendue.
Alors ça n'est pas mettre de loin la première affaire qui va devant la cour d'assises sans preuve absolue, puisque le principe de la cour d'assises c'est l'intime conviction. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'on est dans un dossier limite? Je parle à l'avocat là plus qu'à celui qui doit coûte que coûte défendre son client. Les expertises sont extrêmement fragiles, la reconnaissance vocale n'est pas une science exacte.
Non, c'est vrai, et c'est ce qui a rendu ce procès à la fois tendu, passionnant, et personne n'était certain du verdict. Mais je dois dire qu'on part quand même d'un point, c'est qu'on est sûr de la présence de Grégory Viard. Il a laissé son ADN, il a laissé son sperme sur la scène de crime. Donc on connaît un des auteurs, et c'est à partir de là que l'enquête va se mener. Willy Bardon n'est pas trouvé dans la nature, arrêté par hasard, et on aurait reconnu sa voix. C'est un des meilleurs, c'est voire le meilleur ami de Grégory Rivière, c'est celui avec qui il fait la fête, avec qui il sort, avec qui il accompagne dans ses différentes frasques. Donc cette reconnaissance vocale, elle n'arrive pas dans un terrain absolument vide. Et je crois que c'est ce qu'on comprend mal, c'est-à-dire que le raisonnement des gendarmes dans l'enquête, ça a été de dire il faut vérifier la proximité, se renseigner sur avec qui il sortait. Et puis il y a le comportement de Willy Bardon avec les femmes, ce comportement qui fait que il est capable de dire à un automate je te brûle, je te tue, je te viole. Un automate qui a une voix de femme, ça s'est établi au dossier, donc il n'y a pas que la voix.
C'est un homme hypersexualisé, il a le profil quoi.
Il a le profil, ça ne fait pas forcément de lui un meurtrier, ça n'est pas parce que on est obsédé du sexe qu'on est un meurtrier, mais il y correspond. Les experts vont dire de lui que pour lui, les femmes, c'est des objets pour répondre à son besoin sexuel. Donc on a un personnage qui n'est malgré tout pas indifférent aux affaires qu'on lui reproche. Et puis, il y a ces reconnaissances vocales, mais qui ne sont pas des reconnaissances par hasard. On interroge tous ses proches, on fait écouter cette bande à tous ses proches, et ils sont formels, pour en tout cas la plupart d'entre eux, ils reconnaissent Willy Bardon. Alors on n'est pas dans une expertise, mais comme je le disais à la cour d'assises, vous avez votre frère au téléphone, vous avez votre meilleur ami au téléphone, vous l'entendez, vous êtes susceptible de reconnaître sa voix. Et c'est ce que nous ont dit un certain nombre de témoins, dont le meilleur ami de Willy Bardon, dont on va prouver que son témoignage n'a du sens, puisque sur une bande où il y a un nombre de voix tout à fait important, il va à chaque fois, à 4 reprises, reconnaître la voix de Willy Bardon. Donc il connaît sa voix et s'est établi au dossier, comme d'autres. Et il ne se trompe pas. Quand il reconnaît sur la bande, eh bien, il est absolument formel, comme d'autres. Je crois que c'est ce qui a fait la conviction de la cour d'assises. Nous verrons ce que dira la cour d'assises d'appel.
Vous-même, maître, quand vous l'écoute de la bande intervient au cinquième jour, donc ça fait 4 jours que vous l'avez en face de vous, Bardon. Vous l'avez entendu parler à plusieurs reprises. Quand vous entendez la bande, vous reconnaissez ?
Écoutez, la première fois qu'on l'écoute, on n'entend que les hurlements d'Élodie, et on ne peut rien entendre d'autre. Et c'est ce qui est terrible, c'est cette femme qui se voit mourir et qui dit qu'il l'assassine. Donc on l'écoute parce qu'on veut essayer d'entendre une vérité, et on peut l'écouter des dizaines, des centaines de fois. C'est à la fois horrible, et puis on se dit que peut-être on va comprendre quelque chose de ce qui se passe, peut-être on va comprendre quelque chose des propos qui sont tenus, on entend des bribes de propos, mais à force d'avoir Willy Bardot en face, effectivement, j'ai ressenti que c'était sa voix qu'on entendait dans ce dialogue entre les deux interlocuteurs qui se passent sur cette bande. Voilà, c'est ma conviction. Maintenant, ma conviction ne suffit pas. Et c'est ses proches qui sont susceptibles de le reconnaître, comme vous êtes vous-même susceptible de reconnaître un ami, quelqu'un de votre famille au téléphone quand il vous appelle. Et c'est ce qu'ils vont dire à la cour d'assises. Donc, le meilleur ami de Grégory Viard, celui qui participe à ces frasques et dont la voix est reconnue. Ça n'est pas forcément. Alors, vous savez, il y a 15 ou 20 ans, on jugeait sans preuve scientifique, sans l'ADN, sans expertise.
Absolument,
scientifique.
Oui.
Et donc, aujourd'hui, effectivement, l'ADN apporte un plus. Il permet de dire celui-ci a laissé sa trace ADN, mais il ne permet pas de dire celui-ci n'était pas sur la scène de crime, parce que si on porte un gant, si on met un préservatif, si on n'est pas un bon donneur en ADN, on peut ne pas laisser de trace sur une scène de crime. On l'a vu, vous parliez des deux meurtres dans la Somme. Nous étions les avocats des familles dans les deux autres meurtres qui ont mis en cause Jean-Paul Lecomte. Dans un de ces deux meurtres, il avait pourtant violé la victime. Il n'avait pas laissé son ADN.
Alors, il y a une bizarrerie tout de même dans ce verdict de première instance, c'est que Willy Bardot est renvoyé devant la cour d'assises pour enlèvement, viol en réunion et meurtre, et il est condamné pour enlèvement et viol en réunion et pas meurtre. Quel est le sens de ce verdict? Comment on peut être certain qu'il participe au viol alors que ça n'est pas son ADN qu'on trouve dans le corps et pas qu'il participe au meurtre?
Mais nous avions considéré que, comme Élodie crie en disant qu'on l'assassine, la bande incriminait les deux auteurs, Willy Bardon et Grégory Viard, dans la coaction à propos du meurtre et dans la complicité à propos du viol. Mais effectivement, il y a une forme de contradiction dans cet arrêt de la cour d'assises. On pouvait retenir la coaction dans la mort, mais on ne pouvait pas retenir, parce qu'on n'a pas les éléments, la participation au viol. On pouvait retenir la complicité dans le viol. Donc on en redébattra devant la cour d'assises d'appel, c'est vrai.
Votre raisonnement tient du vous, si on ne pense pas qu'il y a un troisième homme. Est-ce que vous croyez, est-ce que votre client croit qu'il y a encore quelqu'un à chercher?
Il l'a longtemps cru, il l'a longtemps dit. Nous, notre conviction, c'est qu'on entend deux voix sur cette bande téléphonique. Donc, il y a au moins deux hommes. Maintenant, le troisième, tout le monde, on a écouté cette bande 100 fois, on n'entend pas la voix d'un troisième homme, et rien ne vient d'établir qu'il y ait une troisième personne sur cette scène de crime. Donc, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, ils étaient au moins deux, ils étaient deux sur cette scène de crime. La cour d'assises a dit que le deuxième était Willy Bardon, celle d'appel aura en rediscuté. C'est notre conviction, c'est la conviction de Jacky Kulik, et c'est ce que nous plaiderons en cour d'assises d'appel.
Merci infiniment, Maître Seban, d'avoir accepté de débriefer cette mise à jour donc de l'affaire Kulik. Il y aura une suite, un jour je vous raconterai l'histoire du début jusqu'à sa fin, avec la condamnation définitive ou l'acquittement de Willy Bardon.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.